Bonsoir à toutes et à tous. Par les temps qui courent, rencontre les artistes pendant une heure. Et ce soir, on a la joie d'être avec Gérard Fromanger.
Bonsoir.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Roma de Bec de Lièvre avec Gérard Fromanger. Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans cette peinture-là ? Fromanger sait la nocivité de son modèle, la ruse de la marchandise, l'éventuelle bêtise d'un passant, la haine qui peut entourer un peintre dès qu'il a des activités politiques, la haine qu'il peut lui-même éprouver. Mais de cette nocivité, de cette ruse, de cette laideur, il ne fait pas un miroir narcissique pour une hypocrite réconciliation généralisée, immense apitoiement sur soi-même et sur le monde. De ce qui est laid, répugnant, haineux et haïssable, il sait extraire les froids et les chauds qui forment une vie pour demain. C'est curieux à quel point un révolutionnaire n'agit qu'en fonction de ce qu'il aime dans le monde même qu'il veut détruire. Il n'y a de révolutionnaire que joyeux, et de peinture, esthétiquement et politiquement révolutionnaire, que joyeuse. C'est l'extrait d'un texte de Gilles Deleuze en 1973 qui accompagnait l'une de vos expositions, Gérard Fromanger, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, deux expositions portent la trace de cette révolution picturale et joyeuse. Annoncer la couleur, c'est au musée de l'hôpital Saint-Roch à Issoudun jusqu'au 12 mai. Et Dialogues inattendus, c'est au musée Marmottan à Paris, où certaines de vos toiles sont en regard et dialogue avec des tableaux de Pissarro, Caillebotte et Monet. Et c'est jusqu'au 29 septembre. Bienvenue, merci d'être là.
Merci de m'accueillir.
Je propose, après avoir lu cet extrait de Gilles Deleuze, qu'on entende sa voix à l'université de Vincennes en 1980. Il faut tendre l'oreille, le son n'est pas très bon.
Moi, je ne comprendrai rien à quelqu'un si je ne peux pas le traduire dans une espèce de dessin linéaire. Avec, il faudrait trois couleurs, au moins trois couleurs, en fait beaucoup plus, et tracer les lignes dans lesquelles il se trouve. Et comment il débrouille. Hein. Je dirais, oui, vous comprenez, toutes ces lignes, alors qu'ils s'embrouillent terriblement. Vous avez des lignes, je proposais de les appeler des lignes de segmentarité dure. Et on a tous des lignes de segmentarité dure. Il ne s'agit pas de dire les unes sont mauvaises et les autres bonnes. Il s'agit de se débrouiller avec toutes ces lignes. Des lignes de segmentarité dure, pour moi, c'est des choses que tout le monde connaît bien. Mais déjà, il y a plein de cas comme ça. Il y a des cas très très différents dans ce premier paquet de lignes. Nous sommes... je voudrais vraiment presque arriver à me concevoir et à concevoir les autres comme uniquement des paquets de lignes abstraites. Alors, ça ne représente rien, ces lignes. Mais elle fonctionne, elle fonctionne.
Gérard Fromanger, on entend donc la voix de Gilles Deleuze, un cours à l'université de Vincennes, où il explique que selon lui, on est constitué, nous les humains, comme des paquets de lignes. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, c'est une chose à laquelle j'ai immédiatement pensé en voyant les portraits des peintres, de Claude Monet, de Eugène Boudin, qu'on peut voir au musée Marmottan, que vous avez fait, qui sont littéralement des paquets de lignes au pastel.
C'est extraordinaire d'avoir retrouvé cette conférence, ce cours, au fond, de Gilles Deleuze, qui parle exactement de ce que j'ai fait pour cette exposition et que j'ai l'habitude de faire maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, avec bonheur de faire des portraits, à partir de l'idée que la ligne n'existe pas dans la nature et que la ligne est une invention totalement abstraite, humaine, avec laquelle donc on peut faire ce qu'on veut. Et si je démarre en italien, on dit del nullo, du rien, pour arriver au rien, et qu'entre-temps, un entrelac de lignes peut créer un animal humain, un ami, un portrait, ben, ça me rend joyeux. Voilà, ça me fait plaisir. Et c'est toujours une aventure, c'est toujours un risque. On n'ose pas commencer. Ah oui, c'est terrible. Par où commencer? En haut, en bas, au milieu, ça. Alors toujours, d'habitude, c'est plutôt en haut. Et puis ensuite... On circule dans la lumière et dans l'ombre, pas dans nez, bouche, œil, narines, joues, barbe, cheveux, etc. Mais lumière et ombre.
C'est pas les formes.
Non. Enfin, ça fait forme. À la fin, ça fait forme. Mais l'idée de passer comme centre d'intérêt par la lumière et l'ombre, ça fait une autre construction mentale que celle à laquelle cinq générations de peintres n'ont pas échappé, c'est-à-dire la grille cubiste, par exemple, qui est une grille pour les peintres terriblement prenante, dictatoriale, quoi, dictatoriale. Et en effet, à partir de l'idée que la ligne n'existe pas dans la nature, il faut l'inventer, l'idée depuis Cézanne jusqu'à, en passant par Picasso jusqu'à nos jours, c'était une bonne idée de construire architecturalement un certain nombre de lignes qui construisent un visage, comme une architecture avec des droites, des perpendiculaires, des transversales, des horizontales, enfin, etc., des lignes géométriques. Et alors, où ça tourne, comme chez Giacometti, où ça va de haut en bas ou de droite à gauche, mais on construit petit à petit. Pour échapper à ça, c'est très difficile. Alors, ceux qui réussissaient le mieux, c'était les expressionnistes, qui font n'importe quoi, à toute vitesse, avec le sentiment, avec l'impression, si vous voulez, mais enfin, c'est un peu plus loin que l'impression, de Kokoschka, Soutine, jusqu'à Bacon, encore que Bacon, lui, est très assujetti à la grille cubiste, très. Même Jackson Pollock, voir leurs dessins de jeunesse, et ça continue même dans leur toile de maturité, disons. Et donc, y échapper, ça a été un des paris de ma vie de peintre.
Échapper à la grille cubiste.
Échapper à la grille cubiste. Échapper aussi à la grille un peu plus, disons, facile, émotionnelle, passionnelle, comment j'ai dit, expressionniste. Dont les parmi les meilleurs, il y a les dessins d'Artaud, par exemple. C'est qui sont extraordinaires, mais qui sont vraiment des passions jetées comme ça brutalement sur le papier avec un peu n'importe quoi, mais à la fin ça fait quelque chose de grave, d'important, d'émouvant, de bouleversant même. Donc comment échapper là et inventer quelque chose? Alors je suis reparti, j'ai essayé, hein, voilà. ça donne ce que vous voyez hein, dans votre catalogue ouvert de l'exposition à Marmottan. C'est-à-dire j'ai au fond je me suis petit à petit beaucoup inspiré des découvertes, pour pas dire trouvailles, des situationnistes. Oui, par exemple l'idée de dérive m'a beaucoup intéressé. Je dis tiens, pour échapper, disons que le cubisme c'était le plan du métro. Alors pour échapper au voyage direct Bastille-Charles de Gaulle et dériver, ça m'aidait beaucoup à changer de ligne, c'est le cas de le dire, pour le métro ou pour le dessin. Et donc, l'idée de dérive, on peut très bien imaginer une barque qui dérive dans les courants, qui se laisse aller comme ça, ou qui choisit un autre courant que celui de la ligne de Bastille à Étoile, pour changer la vie, pour changer de vie, pour faire un pas de côté, pour essayer d'inventer, pour jouir un peu autrement de la vie, et pas rentrer tout le temps dans le programme cubiste, dans le programme de ligne géométrique. Non, mais c'est un peu symbolique, mais c'est ça. Et donc, cette idée de dérive m'a aidé beaucoup à donc sortir de la ligne cubiste, sortir de la ligne expressionniste, et de trouver une route dérivante et réelle de nos existences en faisant un petit pas de côté par rapport à toutes les grilles connues. Alors bon, est-ce que j'ai réussi? Un petit peu. Ça donne des résultats, pour moi, comme dirait Deleuze, très joyeux, et ça a été même un eureka. Quand, à l'époque, j'avais fait le premier, qui était un portrait de ma compagne, Anna. Je me rappelle, c'était en 1982, je sais pas faire de cadeaux. C'est terrible. Je suis toujours en retard. J'embête, je dis, merde, c'est son anniversaire, je sais pas quoi faire, je n'aime pas les boutiques, j'aime pas tout ça. Je peux vous aider, monsieur? Non, genre, tout ça. Allez, qu'est-ce que je vais? J'ai dit, tiens, je vais faire son portrait. Et après toutes
ces... Vous n'avez jamais fait de portrait avant?
Si, mais pas comme ça. Et j'ai profité, au fond, j'ai pris des risques. J'ai dit, tiens, j'ai pensé à tout ce que je viens de vous dire. J'ai dit, au fond, je vais essayer. Et ça a donné... en fait, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le premier, c'est le meilleur. Depuis, j'en ai fait, je sais pas, 300 peut-être. 200 ou 300, oui, facile. Et alors, j'étais crevé, c'était la nuit. C'était, en fait, c'était Noël. Et c'était pour lui mettre dans son petit soulier, si vous voulez, voilà. Et il y avait un très bon artiste chez, à la maison en Italie, qui était venu passer quelques jours, qui s'appelait Daniel Pomerol, qui est un peu oublié aujourd'hui, sauf de temps en temps, on le montre, mais c'était un peu un très grand artiste du Champien, Ready Made et La Violence du Monde, terrible, c'était un sculpteur. Il était là, très violent, toujours très violent, avec une voix comme ça, perçante. Et alors je lui montre le matin, il me dit, bah tu vois Gérard, c'est formidable, il faut toujours travailler quand on est fatigué, c'est très bien, hein. Bravo, c'est très bien, oh là là, j'aurais aimé le faire. C'était très sympathique, ça m'avait fait du bien, ça m'avait encouragé. Et puis voilà, alors j'ai continué ensuite. Voilà.
Ce qu'il y a d'étrange en voyant ces portraits, c'est qu'on a le sentiment de lignes, donc de plusieurs couleurs, c'est au pastel, d'une ligne qui bouge, qui serpente, qui ondule, qui part dans plein de directions différentes, mais qui n'hésite pas.
Bah oui, elle suit le c'est une espèce de comment on appelle ça, les petits chemins à la campagne, c'est un chemin vert, c'est un chemin qui n'est pas une route, qui n'est pas même pas communal, même pas vicinal, c'est un chemin dans la forêt du monde, quoi, dans la jungle. Et mais c'est comme les chemins des animaux, c'est pareil, c'est des lignes comme ça qui se font par la vie même. Et alors là, ça passe par la lumière et l'ombre. La lumière et l'ombre, elles sont là, elles bougent, elles changent selon les heures. Enfin, pendant 5, 10 minutes, une heure ou deux, on a quand même un socle sur lequel s'appuyer, d'ombre et de lumière. Et donc, ça n'est pas tellement hasardeux. C'est assez précis. Si je regarde votre visage, là, devant votre micro, c'est assez précis ce qui passe dans vos cheveux, puis sur le front, sur votre nez, dans la joue. Alors, je ne peux pas penser ni... Alors, Giacometti, il commencerait en haut, par vos cheveux en haut, puis il mettrait un petit trait en haut de votre nez, puis un autre en bas, puis en bas au milieu de votre menton, là, au milieu de la barbe, puis en bas avant d'aller à votre chandail. Mais il aurait comme ça une verticale qui suit... Puis après, il prendra horizontal, puis il ferait des ronds, etc. Et il construit géométriquement. Tandis que moi, je vais suivre... C'est un bonheur de dériver avec la lumière. C'est que je ne connais pas, au départ, je la connais pas. J'ai pas de grille dans la tête avant de commencer. Comme beaucoup de philosophes qui expliquent le monde avec leur grille. J'en ai pas. Alors, je regarde la lumière. Je regarde le réel, le plus près possible. Et c'est formidable. Ça donne toujours quelque chose. Sans complexe et puis sans honte, avec un petit orgueil, je dis ben, je vais y aller. Je regarde vraiment, quoi. C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on voit? C'est formidable. Les doutes qu'on peut avoir, les erreurs qu'on peut faire, les témoignages, tout ça. C'est comme la vue. C'est très douteux. On oublie. On change d'avis. On dit, ah oui, vous avez raison, c'était peut-être plutôt comme ça, etc. Et là, je peux pas me tromper. Je suis ce qui est. La lumière et l'ombre.
C'est une affaire de perception aussi, d'être peintre, selon vous, de la vie quotidienne. C'est une manière de percevoir le monde.
Oui, c'est une manière de, à la fois d'être encore plus dedans, et puis de inventer quelque chose, c'est échapper aux contraintes un peu. J'ai jamais pensé à ça comme ça, hein, mais ouais, je réfléchis tout haut. C'est pas facile, mais oui, et échapper aux contraintes. Et alors. Si je reviens dessus, les contraintes cubistes ou expressionnistes ou autres, ou académiques, ou même naïves, échapper à ces contraintes, c'est vraiment une joie, c'est une vacance. On part en vacances. Ah, c'est un bonheur, quoi, c'est un bonheur. Donc il n'y a pas d'ennui, pas de fatigue, pas de, non. Ça passe bien. On rentre en plus dans le réel puisque je m'appuie dessus. Et en même temps, on échappe au ce qui est aussi un réel, tout ce qu'on a appris.
Ce qui est important quand on regarde Monet, c'est sa fidélité au sujet. Qu'est-ce qu'il y a de moderne dans Impression Soleil Levant ? C'est tout d'abord le motif qu'il a choisi. le port du Havre, un port industriel, un port qui est en restructuration, à un moment brumeux où il disparaît. Il disparaît dans les brumes. Et c'est donc cet impalpable, ce moment éphémère qui devient le thème de sa peinture et qui en fait quelque chose d'extrêmement moderne.
Gérard Fromanger, on a bien entendu une archive, la voix de Marianne Mathieu, qui est directrice du musée Marmottan, qui parle de Claude Monet et de l'impression au soleil levant. Au musée Marmottan, donc, on peut voir une de vos toiles, qui s'appelle Impression soleil levant 2019, en regard de celle de Claude Monet. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première rencontre avec Monet ?
Avec son œuvre.
Avec son œuvre.
Non, peut-être à Giverny. Où j'ai passé toute mon enfance pas loin de Vernon, c'est-à-dire toute cette région de Normandie. En tout cas, mon souvenir certain, alors ça, peut-être qu'il y en a eu un avant, ce sont les nymphéas à l'orangerie qui m'ont toujours marqué, enchanté, absorbé. Et très souvent, avant de commencer un grand tableau, je me rappelle les nymphéas. Et je me remets dans le bain de peinture, le bain de nymphéa, le bain, parce qu'il y a ces immenses toiles en cinérama, quoi, immense comme ça tout autour, comme une espèce de géode picturale au musée de l'Orangerie, et grâce à Clémenceau qui lui avait fait ce beau cadeau. Et pour nous c'est un cadeau merveilleux. Ça, c'est mon grand souvenir. Voilà, je reste là-dessus. Ensuite, petit à petit, les petites nymphéas, le musée Marmottan, etc. Oui, non, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, oui, Claude Monet a fait 3000 œuvres, dont 12 000 sont à New York. On dit, oui, c'est ça. Tellement il y a de faux, je crois, etc. Ça, c'est un souvenir fort qui m'aide toujours à commencer. Parce que c'est plus difficile de commencer. Il me dit, moi, comment vous arrivez à finir ? Pourquoi vous finissez ? Pourquoi vous dites, tiens, elle est finie, ma toile ? Ça, c'est facile. Il y a un moment donné où...
Une fois que c'est lancé, ça va.
Bah oui, c'est le lancer qui est difficile. Ah, c'est là, faut plonger, quoi. Comme quand on est enfant dans la piscine. Non, je veux pas y aller. Allez, plonge. Puis on nous pousse même presque. Ah, oui, c'est comme ça. Faut y aller. Oui, mais je sais plus. Voilà, c'était ça.
Ce que vous dites dans le catalogue de l'exposition, et qui justement fait partie de cette idée que c'est difficile de se lancer et de commencer, oui, c'est que l'idée que... Vous énoncez l'idée que la toile, elle est jamais blanche. Elle est toujours noire de tout ce qui a été fait avant.
Oui, ça avait bien plu à Deleuze, ça. Oui, parce que toujours, j'entendais les écrivains, « Oh, vous n'avez pas peur de la page blanche. »
Le syndrome de la page blanche.
Ah, ouais. Mais en fait, si on réfléchit un petit peu sur ce qu'on voit, justement, je la regarde, alors on se moque de moi, on me dit, tu vois bien, non, elle n'est pas blanche. Elle est vraiment noire de tout. Alors pour les écrivains, toute l'histoire de la littérature, et pour moi toute l'histoire de la peinture, par exemple de la peinture, c'est ça obstrue la vue, quoi. Ça. Donc il faut la blanchir. C'est simple. Il faut la libérer. Il faut l'ouvrir. Il faut la rafraîchir. Voilà. Il faut en faire un. Il y avait un torchon dans une cuisine en Allemagne sur lequel était marqué « Le soleil se lève dans sa splendeur. Le jour se lève dans sa splendeur. » Ben c'est ça, voilà. C'est le blanc, quand on arrive à oublier, connaître, puis oublier, le blanc se lève dans sa splendeur. Oh, alors là, on commence. Alors là, c'est formidable. Alors là, il y a des découvertes, des automatismes, tout revient autrement. Sinon, on est fatigué, ou on fait comme les autres. Si on cherche pas à blanchir, si on comprend pas qu'elle est noire, alors évidemment, c'est difficile, elle est toute blanche. Elle est toute blanche, il se passe, oh là là, ça fait peur. Non. Donc, il faut, c'est un peu mnémotechnique, c'est un truc de peintre, un peu, peut-être. Ouais. Enfin bon, oui, voilà.
Mais c'est drôle dans la manière dont vous avez parlé de ce phénomène-là, de page blanche ou de toile blanche, toile noire. C'est qu'on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui serait de l'ordre du bagage culturel. C'est pas une histoire de culture. C'est plus une histoire vraiment de regard.
Ah oui, 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 oui.
Oui, comme si la toile, enfin, c'était vraiment gênant, ça gênait
votre
perception.
C'est pas qu'elle est bouchée de culture picturale. Non, elle est la présence mentale des autres sur la toile apparemment blanche. C'est une dictature. Vous voyez, quand on commence, je peux pas parler pour les autres, on a 16, 17, 18 ans, on choisit vraiment de devenir peintre. J'ai perdu le fil.
Sur l'idée du bagage culturel.
Du bagage culturel, oui, je sais plus, oui. On admire. Et c'est comme ça qu'on commence. On admire un maître ou deux ou trois maîtres. Et c'est ça qui donne envie. Soit leur vie, soit leur photo même, leur physique, leur gueule. Je me rappelle quand j'étais très jeune, petit, tout ça, la gueule des grands peintres, la gueule de Giacometti, la gueule de Picasso. Quand depuis l'âge de 2 ans on dessine comme un fou, qu'on pense qu'à ça, etc. On a des maîtres, on a vraiment des maîtres. Bah alors, comment en sortir? C'est ça. Ils noircissent la toile blanche et on veut faire comme eux même. Puis on croit qu'on est comme eux. Oui, c'est comme j'ai souvent pensé à ça. Au fond, je voyais un film avec Marlon Brando, par exemple. Mais en sortant du film, j'étais Marlon Brando. Ah ouais, je marchais comme lui. Je me mettais la main dans les cheveux. Je les mettais en avant comme lui. La bouche comme ça, le nez. Ça. Je prenais une petite voix comme ça. Ouais. Oh, j'étais Marlon. Complètement abruti. C'est complètement un truc de fou. C'est un crétin, quoi. Débile. Ben, les maîtres, c'est un peu comme ça. On se prend pour Picasso. Puis il dit, je fais aussi bien que lui. Ah bah oui, d'accord, mais c'est lui qui le fait, c'est pas toi. Alors, d'où commence la difficulté? C'est individuellement la même chose que les Algériens en ce moment, par exemple. Toute cette extraordinaire jeunesse, quand on pense qu'il y a 50% qui ont moins de 25 ans, ou quelque chose comme ça, c'est fou. Ils sont des millions, ils sont 20 ou 30 millions de jeunes. Ils sont tous dans la rue. Ben, ils inventent quelque chose. C'est un moment formidable. Après, espérons que ce ne soit pas comme d'habitude. Des luttes, des batailles, des mitraillades, des procès.
Ils tracent leur ligne aussi, d'une certaine manière.
Ah voilà, ils tracent leur ligne et ils échappent. Aux vieux, à la vieille génération, qui a été magnifique en son temps, sûrement, qui a eu ses héros, ses victoires. Bon, ça va, faut réinventer. Chaque fois, faut réinventer. Faut rafraîchir la toile. Faut blanchir la toile.
Comment il s'est passé, concrètement?
Je dis ça parce que, c'est aussi, alors individuellement, c'est ça ma phrase, oui. Individuellement, c'est pour soi-même, c'est aussi fort que l'indépendance d'un peuple. Quand il court
cette
après son indépendance, oui, cette conquête-là, c'est... L'indépendance, c'est l'indépendance. Alors bon, on n'est pas obligé. On peut rester chez papa, maman, on peut rester avec ses potes, on peut imiter Giacometti et Picasso toute sa vie, pourquoi pas? C'est un plaisir. Mais alors en sortir, faire son propre nid, faire son propre chemin, sa propre ligne, c'est fascinant. C'est enivrant. Mais c'est pas facile. Mais c'est enivrant.
Comment il s'est passé concrètement le dialogue avec Impression Soleil Levant de Claude Monet?
Ben alors.
Et la toile que vous avez proposée au musée Marmottan?
Ben d'abord j'avais commencé par avoir une complicité avec Caillebotte, avec Paris Temps de pluie. Oh ça m'avait plu, j'ai dit tiens c'est marrant, on dirait le boulevard des Italiens. Alors j'ai demandé à Patrick De Carolis et à Marianne Mathieu, la directrice. Je me disais, est-ce que je pourrais un jour venir avec un de mes vieux tableaux des années 70 du boulevard des Italiens, le mettre à côté du Caillebotte, et puis faire une photo, puis j'emmènerai ça chez moi, parce que c'est tellement incroyable. Puis j'ai appris plus tard que Caillebotte, il a fait des tableaux sur le boulevard des Italiens. Celui-là n'est pas tout à fait au même endroit, mais depuis un balcon, il peignait le boulevard des Italiens. Enfin, tout ça, ça m'a bien plu. Et puis toute notre histoire du musée Marmottan, déjà, a commencé comme ça. Puis ensuite, faire un nouveau tableau, non, je l'avais déjà fait. parallèle à Caillebotte ou à Pissarro. À côté, il y avait un Pissarro. C'était les grands boulevards, je crois. Tant de neige.
Tant de neige.
Tant de neige. Là aussi, j'avais fait. Alors, tout à coup, j'ai revu dans un coin là-bas, au fond, le petit Mollet qui est tout petit. Impression soleil levant. J'ai dit, tiens, alors ça c'est quand même c'est fondateur. Puis tout le monde s'est moqué du mot impression. C'est comme ça qu'est devenu le mot impressionnisme. C'est en se foutant de leur gueule. Et c'est devenu un nom noble. Ah, l'impressionnisme, oh, c'est devenu quelque chose, voilà. Alors que c'était une moquerie au départ. Alors j'ai dit, bah oui, au fond, lui, alors je me renseignais un peu, tout ça, je me dis oui. Alors bon, ce qui était nouveau, révolutionnaire, disons, comme dit Deleuze, en art, etc., dans la vue, la vision du monde, aujourd'hui, c'est complètement intégré. C'est comme un calendrier des postes. Vous savez, c'est comme les gens qui me disent souvent, ils me disent, oh là là, vous avez vu ce coucher de soleil? Oh, si j'étais peintre! Ah, oh, si j'étais peintre! Alors bon, bah oui, d'accord. Oui, bah oui, vous feriez comme Monet. Voilà. Et alors.
C'est parce qu'on a vu Monet qu'on va s'extasier devant un coucher de soleil.
Probablement. Enfin, en tout cas, ça compte. C'est-à-dire, alors vous voyez, c'est drôle, vous dites devant un coucher de soleil. Alors, il y a polémique.
Levé, couché.
Bah oui, on sait pas très bien si c'est un levé ou un couché. Et alors, c'est dit, bon, alors, ouais. Alors c'est quoi mon hôtel? C'est quoi ma chambre d'hôtel? C'est quoi ma fenêtre? C'est quoi mon port du Havre? Je suis pas vrai. Je suis pas dans un hôtel, mais en même temps, bon, je me mets à sa place. Et alors, j'apprends depuis Gagarine jusqu'à Pesquet. J'apprends que, pour moi, mon hôtel, c'est la terre. C'est plus le port du Havre. Le port du Havre, c'est fait. Ça va. C'est dit. J'en profite. J'en jouis. Je regarde le soleil, le couchant ou levé, comme Monet. Mais pour le regarder comme moi. Qu'est-ce que je vois, moi? Ah, ça devient plus difficile.
C'est une question de point de vue. Quel est votre point de vue?
De l'époque. L'époque, c'est une question de l'époque. Qu'est-ce que j'ai de neuf dans ma tête depuis Monet qui fait que je regarde le soleil levant autrement? Alors donc, voilà, je me dis, bon, alors, c'est là-haut que ça se passe. Le soleil, c'est là-haut. Là-haut, c'est fait devant la fenêtre de ma chambre d'hôtel. C'est fait par Monet et d'autres. Oui, il est là, son coucher de soleil, c'est très bien. Mais si je me mets dans ma réalité d'aujourd'hui, dans laquelle je participe, dans laquelle je suis, ben, je me suis imaginé ce qui est en fait une chose réelle. La Terre, sur laquelle je suis, comme une station spatiale. J'apprends que nous faisons 930 millions de kilomètres autour du Soleil en un an. Alors, je fais un petit calcul. Je dis, mais nom de Dieu, on fait donc 30 kilomètres secondes en ce moment. Mais c'est dingue.
En restant immobile.
Oui, en restant immobile. Et puis sur nous-mêmes, nous tournons sur nous-mêmes en même temps que les 30 kilomètres, on fait 500 mètres secondes sur nous-mêmes. Ah, je dis, autour du Soleil. Donc, il se lève, il se couche, il se lève constamment sur notre station spatiale sur laquelle nous sommes, qui s'appelle Terre. Ah, alors là, ça m'a aidé beaucoup à m'enivrer d'un autre soleil levant que celui de Monet et le proposer avec les ondes, les vibrations, les orbites, les trajectoires des pierres, des cailloux, des planètes, des sons, des lumières, des vitesses, etc. Tout ce qu'on nous apprend depuis que je suis né, toute la modernité des sciences et de notre vision neuve, nouvelle, et puis qui va encore bouger, qui va encore changer, qui va, etc. Et je peux plus m'empêcher de, quand je vois le soleil se coucher, de me dire, tiens, il est encore là, mais ça fait 8 minutes qu'il a disparu. Puisqu'il met 8 minutes à nous parvenir, sa lumière. Tout ça est formidable. Et nos portables qu'on ne quitte plus, ils fonctionnent avec ça. Les satellites, les ondes, les vibrations, les 300 000 kilomètres à la seconde. Donc ce tableau, le mien, Impression Soleil Levant 2019, il fait la part belle à toutes ces réflexions, toute cette vision qui change celle de Monet, qui en fait une, j'espère, une d'aujourd'hui. Voilà. C'est une tentative, disons, voilà.
Qu'est-ce que peindre aujourd'hui ? C'est cette question que Fromanger a pris le parti de peindre. Il est le peintre de l'acte de peindre. Painting act. Quand peindre, c'est faire. l'artiste devient celui qui fait le regard et qui engendre, à travers lui, de nouvelles formes d'existence. Cela étant, que faire des contenus après l'impasse où se sont retrouvés les tenants de l'abstraction, du minimalisme, de l'ascétisme support-surface et toutes les sectes formalistes qui ont cru que par la seule vertu de leur négation, il leur serait donné de franchir le mur des significations dévaluées et activement dénaturées. Et comment déjouer désormais le retour avec les tambours et trompettes que l'on sait de la figuration conservatrice, ce gigantesque carnaval qui a su se rendre incontournable à mesure qu'il parvenait à répondre, même par les voies les plus débilitantes, à un authentique désir de reterritorialisation subjective. Curieusement, tout semble s'être passé comme si Fromanger avait prévu de longue date ce dernier coup. Rétrospectivement, on peut en effet considérer que sa peinture photogénique n'aura été pour lui qu'une sorte de pressentiment et de conjuration du trou noir catastrophique qui menace l'avenir même de la peinture dans nos sociétés par son rabat brutal, on pourrait dire presque bestial, sur de prétendues réalités plastiques de base et sur une prétendue peinture de toujours. Le réalisme de Fromanger n'a évidemment jamais rien eu à faire avec une telle sorte de réhabilitation du contenu. Il a constitué plutôt en une expérience de traitement des réalités et significations dominantes afin d'en extraire, comme d'un minerai, de nouveaux matériaux picturaux. Gérard Fromanger, je viens de lire un texte de Félix Guattari, qui est tiré de son livre « Les années d'hiver ». C'est un texte de 1984 consacré à une fresque qui s'appelle « La nuit et le jour » que vous avez faite dans ces années-là. Parlez beaucoup, lui, de « painting act » et de « peinture processuelle ». Est-ce que ça a été une notion qui vous a parlé quand il a énoncé ça ?
Ah, mais Félix, d'abord, il était génial. C'était un garçon absolument génial, d'une inventivité constante. C'était un enfant prodige des idées, des concepts, de tout ça. Ce que je ne suis pas. Moi, j'essaye avec les moyens du peintre. Mais lui, avec l'intelligence, l'abstraction, la pensée, il arrivait. Il donnait beaucoup à Gilles Deleuze, qui le lui rendait bien. Mais enfin, c'était un vrai couple qui partageaient, qui se donnaient l'un à l'autre des tas de choses nouvelles, des tas d'idées nouvelles. Et quand il venait à l'atelier, tout de suite, il fallait qu'il réfléchisse, tout de suite, il fallait qu'il dise des choses nouvelles. Ah, mais pourquoi t'as fait ça? Mais ah, pourquoi c'est là ça? Ah oui, j'ai compris, etc. Puis il inventait. Alors là, il reprenait sa grille un peu de pensée psychiatro-philosophique pour expliquer les tableaux. Et
vous trouviez ça enrichissant? Qu'il y a des penseurs comme ça qui élaborent des concepts à partir de votre peinture.
Oui, c'était toujours la même, un peu la même histoire avec Deleuze par exemple. J'avais compris le concept par exemple de machine désirante. Alors il venait à l'atelier et puis alors il démontait mon tableau comme une machine. Pourquoi t'as mis du verre là? Ah bon, alors d'accord, bah parce qu'il y a un rouge là-bas qui demande, ah, etc. Puis alors ensuite, les deux ont besoin de froid, puis de chaud, etc. Hein. Puis ils mettaient tout à plat, comme une revue qui expose un moteur au salon de l'auto.
Ils démontaient le tableau.
Puis ils disaient, ah bah oui, mais alors, moi je sais, toi tu sais le remonter. Toi tu sais faire marcher la machine. Toi tu sais conduire la voiture. Moi je ne sais pas. Alors ça... Ça, c'est pour ça qu'on s'apportait chacun quelque chose. Il n'y avait pas de pensée ou de machine désirante supérieure. Il y avait, alors donc, il m'apportait cette lecture à laquelle je n'aurais jamais pensé. Je le faisais presque automatiquement. Je me disais pas, oui, c'est une machine pleine de désirs qu'on peut démonter. Alors, il me sidérait, c'est vrai, oui, il avait raison, c'est vrai. Il n'y avait qu'à enlever ce vert, ce rouge, ce bleu là-bas, cette forme ici. C'est vrai, tout ça était une montature, je sais pas comment on dit, une montature, une construction mentale, c'est vrai, que je faisais un petit peu automatiquement, petit à petit. D'ailleurs, ça m'aidait à changer un peu, à évoluer, parce que dire, ah bah non, ça c'est trop. Ça devient académique, ça devient maniéré, il faut changer, il faut bouger, il faut faire évoluer. Et Félix, c'était un peu la même chose. Mais Félix, ils étaient tous les deux tellement généreux, c'est ça surtout. Ils critiquaient pas en mal. Ils essayaient, ils trouvaient toujours ce qu'il y a de bien. Ah oui, mais c'est pour un peintre, c'est merveilleux. Ah oui, t'as fait ça, oui. Même si on le savait pas nous-mêmes, si on ne s'en rendait pas compte. Ah, c'est, ça c'est très très bien. Ah là, tu inventes quelque chose. Ah là, tu me fais du bien, tu me fais plaisir. Je dis, oh, bon, oh, c'est super, formidable. Alors oui, alors, ça donnait des pistes pour continuer. Non, tous les deux. Oui, les textes de Foucault aussi m'ont beaucoup apporté. Oui. Mais ça changeait pas la peinture, ça la faisait un peu évoluer.
Ça la prolongeait.
Pour les gens qui la regardent, ça donnait une ligne, une grille de lecture possible. Parce que c'est effectivement difficile pour le spectateur lambda, disons, comme on dit. Il arrive devant un tableau, alors il dit, ça me plaît ou ça me plaît pas. J'aime ou j'aime pas. Bon, alors ceux qui vont un petit peu plus loin, ils vont chercher, ils vont se renseigner sur qui est le peintre, quand est-ce qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il y avait autour de lui, ce que ce titre, ta. Une lecture intelligente, comme celle, par exemple, de Félix ou de Gilles Deleuze, donne au spectateur une traduction possible, qui, ah oui, ah, j'avais pas pensé à ça. Ah bah oui, il a raison, c'est formidable. Ah bah oui, etc. Ça donne à voir, ça donne à penser, ça donne à s'émouvoir. D'autres, par exemple, comme Pontus Hultén, qui était le premier grand directeur du Musée national d'art moderne à Beaubourg, était un Suédois magnifique, un géant, un magnifique. Lui, il voulait rien, pas d'informations, pas de texte, même pas de comment on dit en italien, les cartels, les didascalies. Il voulait pas de cartels, pas de titres, rien. Il dit, il faut rien, il faut laisser le spectateur, quel qu'il soit, enfant, adulte, nu, avec le tableau nu, et qu'il se débrouille avec. Qu'il découvre lui-même. Bon, c'est une autre solution. Ah, enfin bon, tout est possible. En tout cas, tant que il y a des gens comme ça, que ce soit Pontus avec rien, Gilles et Félix avec beaucoup d'explications, ou de théorisation, ou de d'indications, ben ça encourage le peintre, ça fait plaisir au peintre. Ça lui dit qu'au fond, vous lisiez tout à l'heure dans un texte que il y avait ceux qui pensaient qu'elle était finie, etc. Ça, comment on pourrait dire, ça nourrit le fleuve infini, continu. Et on espère qu'il n'y aura pas de sécheresse de la peinture. Voilà. Oui.
Ce dont témoigne aussi le texte de Guattari que je viens de lire, c'est de l'espèce d'affrontement qu'il y a pu avoir à une époque ou une espèce de lecture de l'histoire de l'art un peu rapide, qui dirait qu'on serait passé d'une forme de figuration à l'abstraction, qui aurait pu aussi, d'une certaine manière, consister une forme de menace pour la peinture. Mais j'ai l'impression que le dialogue entre figuration et abstraction, c'est jamais quelque chose qui vous avait vraiment intéressé. C'était pas le problème, d'une certaine manière, pour vous.
Non, moi, tout me sert, au fond. Toutes les écoles, tout le passé... Et toutes les batailles de l'art, qui on peut dire aussi des, par rapport aux vraies batailles, aux vraies guerres, des batailles un peu pour rire, hein, abstraction, figuration, géométrie contre lyrisme, body art contre conceptuel, etc., art relationnel contre vidéo, enfin tout ça, contre ou face à ou avec. C'est des batailles pour rire, c'est des batailles passionnantes qui nous passionnent, qui nous font vivre, qui nous font faire évoluer la vision du monde que l'on a. Mais voilà. Mais le fondement même de Félix, qui m'a beaucoup aidé à penser l'art, c'était l'idée, au fond, d'abord que d'une chose en est une autre, le processuel, d'une chose en est une autre, c'est comme ça. Et la deuxième, c'est que trouver même une toute petite idée en peignant ou en écrivant ou en faisant n'importe quoi, quelle que soit la discipline que l'on... Bon, en tout cas, moi, c'était la peinture de Romain. Si on ajoute un tout petit caillou blanc d'invention, on montre qu'on peut changer le monde. C'est pas la propagande, c'est pas la figuration sociale, comment on appelle ça, le réalisme socialiste ou le réalisme capitaliste des New Yorkais à un moment donné, etc. Ou des Russes, le réalisme socialiste comme il y a en ce moment, je crois, au Grand Palais, je crois. C'est amusant d'ailleurs parfois, mais enfin bon, c'est le problème, c'est inventer un petit quelque chose, un tout petit rien. Eh bien, on prouve. Alors ça, on est vraiment révolutionnaire parce qu'on prouve qu'on peut changer le monde. Et on emmerde les conservateurs. C'est la phrase de, comment il s'appelait, Tchekhov. Tchekhov, il dit ça. Il dit ça. Quand il y a de nouvelles règles en littérature, ça veut dire que bientôt, il y aura de nouvelles règles sociales. Ah oui, c'est intéressant.
France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Gérard Fromanger.
Mai 68, ce qui est, alors là aussi, un certain nombre d'artistes professionnels, d'artistes de gauche exploitent, tirent la corde depuis des années là, avec cette affaire-là. Moi, je n'ai pas trop envie non plus d'insister. Il y a simplement, je peux dire quelque chose sur une expérience très très précise. C'est l'expérience de l'atelier populaire d'affiche, l'école des beaux-arts. Il y en a eu dans bien d'autres endroits à travers la France. Et contrairement au livre Génération là, de Rothman et Hamon, c'est ça, bien documenté, mais dit Roland Castro et ses copains fondent cet atelier. Non, pas du tout. Ceux qui fondent cet atelier, enfin qu'ils fondent, le mot n'est pas juste, ceux qui ont l'idée comme ça sur le terrain qu'on va fermer l'école, mais on va pratiquer la grève active, c'est un vieux concept gramscien, la grève active, eh bien, on va faire des affiches. On commence par la litho, la sérigraphie, etc. Eh bien, ce sont des gens non organisés, des gens qui sentent le moment, qui sont évidemment des jeunes révoltés, mais pas des professionnels, pas des gens encartés. Parce que c'est peut-être triste à dire, mais c'est inouï ce que les marxistes-léninistes, les trotskistes ont été dépourvus de toute imagination.
Voilà l'atmosphère à la Sorbonne ce matin. Raymond Tortora est parti pour France Inter à la Sorbonne pour nous raconter ce qui s'y passe, pour nous donner un peu une carte postale sonore. Raymond Tortora, est-ce que vous êtes avec nous ?
Je suis tout près de vous, je suis tout près de la porte d'entrée de la Sorbonne.
Oui.
Et sur les portes de cette Sorbonne, des affiches ont été collées. J'en ai relevé une au hasard. Elle dit ceci, la société de consommation doit périr de mort violente, la société de l'aliénation doit disparaître de l'histoire, nous inventons un monde nouveau, original. Et alors, ensuite, on entre à l'intérieur de la Sorbonne. Alors là, c'est un spectacle assez extraordinaire qui nous attend. Imaginez, pour planter le décor, ces films de Fellini. Je ne sais pas si vous avez vu 8,5, mais c'est exactement le décor qui se présente à nos yeux. Dans la cour de la Sorbonne, des groupes d'étudiants. Entre les statues, au milieu de ces statues, celle de Victor Hugo notamment, un piano à queue, et il y a un garçon qui joue des morceaux classiques ou qui joue du jazz, et tout le monde écoute, écoutez.
Ça fait longtemps que vous êtes là ? Longtemps, bah, j'étais là de 11h du soir à 4h du matin. Je suis rentré, puis je suis revenu.
Qu'est-ce qui se passe là en ce moment?
Bah, pour le moment, il y a des discussions, quoi, des débats. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose.
Légèrement folklore, quoi.
C'est plein partout, quoi. Alors, c'est...
Il y a des commissions, il ne faut pas exagérer, il y a des commissions sérieuses.
C'est pas folklore.
Il y a du folklore avec un piano ou des cacahuètes.
Bon, disons qu'en dehors des commissions, on peut venir se détendre dans la cour en écoutant un morceau de musique.
Exactement, voilà, exactement.
On dira Fromanger, on écoute une archive, un journal de France Inter. C'était en mai 68 avec un correspondant en direct de la Sorbonne. Et juste avant, c'était la voix de Pierre Buraglio qui parlait de l'expérience de l'atelier.
Un ami.
Que vous connaissez.
Ah ouais, un grand ami, formidable. Mais quel sérieux, quelle gravité il a tout à coup. Heureusement, il a...
Dans cette archive.
Oui, dans cette archive. Mais dans la vie aussi. Dans la vie, c'était un garçon sérieux. Plein d'humour, mais d'humour très réservé. Et on le voit à la fin, là. Paf, il envoie son petit coup de pied de l'âne aux trotskistes et aux maoïstes, etc.
Qui sont dépourvus d'imagination.
Aux théoriciens qui sont dépourvus. Et il a ce sourire assuré d'une pensée bien claire. Ah non, il était très important dans l'atelier des affiches aux Beaux-Arts, Pierre Buraglio.
Vous êtes d'accord avec lui sur l'idée que les trotskistes et les léninistes de l'époque manquaient d'imagination?
Ben oui, la plupart, ils ramaient derrière, en fait. C'était le point de départ, c'était les anarchos, on disait, je sais pourquoi, les anarchos syndicalistes, les conbendistes, disons, pour faire vite, du dit mouvement du 22 mars à Nanterre. Ou des dizaines d'enragés, ou encore des situationnistes de Strasbourg qui se mettaient sur la cathédrale, là-haut, assis, puis ils disaient rien. Ils disaient rien, et alors personne ne comprenait, mais ça suffisait pour faire un événement, pour créer un événement, c'est ce qu'ils disaient d'ailleurs. Et c'était en dehors de toute idéologie trotskiste, maoïste, etc., totalement. Et c'est ça qui a donné le point de départ, le son du le diapason, quoi, du point de départ. Et ensuite, beaucoup même ont ramé longtemps pour intégrer le mouvement. Il y en a beaucoup qui ne voulaient même pas. C'est ce truc-là. Ça n'a rien de marxiste ou de populaire. Ou c'est une bande d'enfants de bourgeois. Ça ne mène à rien, etc. Alors, petit à petit, quand ils ont vu qu'il y avait 13 millions de grévistes, qu'il y avait des manifs gigantesques de millions de gens, que toute une jeunesse participait de toute classe sociale, qu'il y avait une espèce d'enthousiasme délirant, de fête extravagante, folle, qui aurait pu mener à une vraie révolution, il y avait tout ce qui fait le bonheur d'une révolution. Et probablement, heureusement, pas ce qui en fait le malheur et la tragédie. C'est-à-dire les procès, les batailles, les trahisons, les idéologies qui se combattent, par exemple. Les trotskistes pablistes contre les trotskistes lambertistes, les maos spontextes contre les maos officiels, etc., etc. Enfin bon, toutes ces... Il y avait eu un livre que tout le monde connaît à cause du film de Umberto Eco, qui s'appelait Au nom de la rose, le nom de la rose, je crois. Alors, il raconte, il y a au moins une vingtaine de pages sur les différentes sectes franciscaines. Mais c'est dingue. Alors là, c'est Saint-François d'Assise, oui, alors on a cette image pieuse et Saint-Sulpicienne que nous donne l'Église catholique d'un saint charmant qui parle aux oiseaux. Et les oiseaux lui répondent, etc. Oui, quand on voit les images de l'époque, c'est pas du tout ça. C'est un maître penseur. Il a les doigts levés, et puis il enseigne à des corbeaux tout noirs, etc. En rang sur des étagères. Et il s'entretue. À l'époque, il s'entretue au nom de la pauvreté, au nom de la misère, au nom de Dieu. Alors il y a le Dieu des bons, le Dieu des mauvais, etc. Ben, c'est un peu pareil. C'était des gens qui pensaient vraiment à la révolution, tous. Mais ben, alors. Avec chacun une idée différente, et c'était plus intéressant de se battre les uns contre les autres que de se réunir pour faire quelque chose de positif. oui, c'est sûr.
Est-ce que vous diriez que grâce à mai 68 que votre peinture s'est incarnée dans la rue, notamment je pense
ça a beaucoup compté, oui, ça a beaucoup compté.
À tout le projet autour du boulevard des Italiens.
Ben oui, ça a compté parce que je en mai 68, moi je. On découvre la rue, on se parle, il n'y a plus de barrière entre les êtres, On s'aide, on s'entraide, on se prend en voiture, on prend n'importe qui. On se connaît pas, on se connaît tout de suite. Il y a une espèce d'accord dans la rue. Et puis, toutes ces manifestations dans toutes les rues. Il y avait plus de parcours officiel des syndicats habituels entre la République, la Nation, la Bastille, etc. C'était autre chose. Tout était neuf, comme tout à l'heure dans les circuits situationnistes de mes portraits, dans les lignes. C'était des lignes changeantes. C'était effectivement des pas de côté, hors du plan du métro, hors du plan de la ville. Déjà codifié, disons académique, c'était une invention quotidienne de la vie, c'est vrai. Et voilà. Je ne sais plus quel était le sens de votre question.
Sur le fait que vos peintures s'incarnent.
C'est ça,
rue.
Oui, s'incarnent à partir de la rue. Oui, c'est ça. Mais alors depuis, je vois bien que. Cette vision, enfin cette perception, tout ça, c'est pas une vision, c'est trop prétentieux. Cette perception, c'est tout simple, du réel, montre à chaque fois que la rue, en tout cas, tente et parfois arrive à transformer le monde. À chaque fois, que ce soit la place Tahrir au Caire, que ce soit en ce moment les Algériens tous les vendredis dans les rues d'Alger ou de toutes les villes d'Algérie, ou comme on disait le printemps arabe ou d'autres dans le monde entier. La rue fait peur aux puissants, fait peur là quand le peuple bouge. Ah, alors là c'est plus pareil, c'est terminé. Ah oui, mais si vous comprenez, il y a cela, etc. Non, donnez-nous du pognon, c'est tout, c'est pas compliqué, donnez-nous de l'argent, on peut plus. Ah bah non, parce que le tapis dit ceci, cela. Ah bah non, c'est comme ça. Alors parfois ça marche. En tout cas, ça fait trembler. Et ça fait réfléchir. Et en tout cas, ça a toujours des résultats positifs. Toujours. Même si apparemment, c'est raté, c'est devenu mortifère. Les idéologies ont repris le poil de la bête et les directions des mouvements, etc. Fondamentalement, ça a fait joie, ça a fait peur, et l'ensemble fait que dans l'âme d'un peuple, comme dans l'âme des artistes, enfin dont je fais partie, il en reste toujours quelque chose qui construit, qui fait socle, sur lequel on peut s'appuyer, parce que ça c'est solide, ça ne se discute pas, c'est là. Comme une chose profondément humaine, et voilà, qui fait évoluer et résister à la saloperie du monde, et donner une petite idée de ce qui est important. Voilà, chose importante. Voilà.
Est-ce que vous diriez que les nombreuses silhouettes qu'il y a dans plusieurs de vos tableaux, les silhouettes de passants notamment, pourrait faire de vous d'une certaine manière pour vous de représenter, peut-être d'une manière linéaire dont on parlait des lignes tout à l'heure, le peuple.
Oui, c'est ça, oui, si vous voulez, oui. Oui, d'abord, ils étaient tous rouges, hein, en 68, ils étaient tous rouges dans le boulevard des Italiens, tout ça. Parce que pendant quelques mois, j'ai eu l'illusion, j'ai cru que l'homme était bon. C'est terrible. Bah oui, j'ai cru que l'homme était bon, si vous voulez. Alors, petit à petit, j'ai bien vu que, non. Être bon, c'est possible, mais c'est un effort, c'est une trajectoire, c'est une discipline, c'est une culture, c'est une résistance, il faut faire attention, c'est pas évident, quoi. C'est pas naturel. Alors, une fois que, j'ai eu compris ça, j'ai individualisé mes silhouettes. Elles ont commencé à avoir chacune une couleur différente. Voilà. Ça a commencé par un voyage en Chine, où en revenant pour remercier tous les Chinois que j'avais rencontrés là-bas, hors du Parti communiste, hors des interprètes et des groupes qui nous guidaient partout.
De la voix officielle.
Hors de la voix officielle, oui, merci. Pour les remercier, j'ai fait ce grand tableau qui est à Beaubourg, qui s'appelle « En Chine à Wuxian », où il y en avait en fait des milliers. J'avais pris une photo pour faire ce tableau dans un petit village que nous visitions, qui était un tout petit village de 300 000 habitants. Et on sortait de la maison de la culture de ce village. Et je me suis dit, je vais les remercier, mais je vais remercier les gens, ce peuple, qui m'a reçu merveilleusement, et avec des sourires, des rencontres. J'avais fait des balades dans les rues, tout seul. Une fois, je me suis retrouvé avec 3000 Chinois dans mon dos. Ils n'avaient jamais vu de blanc à l'époque. C'était en 74. C'était un des premiers voyages, en tout cas de Français, puis d'Occidentaux, à Pékin, tout ça, dans toute la Chine. Et j'étais sorti là, et il y en avait 2000, 3000 qui me suivaient. Mais comment il est habillé, qu'est-ce qu'il fait de ça? Je me souviens très bien parce que il y avait une petite vendeuse sur le trottoir qui vendait des allumettes. Mais c'est vrai qu'elle avait 2-3 boîtes d'allumettes différentes. J'en ai choisi une. Ils ont tous précipité pour acheter la même. Non. Et alors on s'est assis. À un moment donné, on s'est assis et on s'est parlé avec des dessins. On faisait des dessins pour se comprendre. Qu'est-ce que tu fais? D'où tu viens? Quel âge as-tu? T'es tout seul? Pourquoi t'es là? C'était en hors idéologie. C'était merveilleux. Mais ça aurait voulu dire que l'homme était bon. Mais il n'y avait pas loin les interprètes et les gardes et les gardiens. Ils disaient, il faut rentrer à l'hôtel, monsieur, etc. Voilà. Voilà. L'homme est complexe, mais c'est une passion. L'homme est une passion magnifique. Voilà, ça c'est sûr.
Et c'est à partir de la Chine que vous avez individualisé les silhouettes?
C'est à partir de cette, en quelque sorte, revendication face au collectivisme total. De dire, mais non. Chacun. Et alors, les mythologies quotidiennes.
Les mythologies?
Oui, l'écrivain fameux.
Ah, Roland Barthes.
Roland Barthes.
Les mythologies.
Les mythologies quotidiennes, c'était les peintres. C'était Gérald Gassiot-Talabot. Les mythologies de Roland Barthes. Il était dans un voyage 8 jours avant moi. Oui, avec, je crois, Solers et Julia Kristeva, etc. Ils avaient un autre voyage. Et il avait écrit un livre, en rentrant, un petit livre sur le désir en Chine. Et alors, tout le reste ne l'intéressait pas du tout. Et alors, c'était la bouffe, c'était la nourriture. Et il avait fait un petit livre, un petit opuscule magnifique sur où passe le désir en Chine. Ouais. Ouais. Et alors, j'avais un autre exemple. À l'époque, il y avait un je me rappelle plus comment il s'appelle, un prêtre qui disait, oh, quelqu'un disait dans une réunion, en Chine, il y a plus de sexe, c'est la révolution pure et dure. Et alors il y avait ce curé qui disait, oui, ils ont remplacé le sexe par le désir de révolution. Et alors il y a, dans un coin, il y avait Jean-Luc Godard qui a dit, oh oui, mais alors c'est drôle, parce que alors l'année dernière, ils étaient 800 000, ils étaient 800 millions. C'est drôle, cette année, ils sont 950 millions. C'est toujours très, très coquin, taquin et drôle et intelligent. Oui, voilà.
Merci Gérard Fromanger.
Non, merci à vous, c'était sympathique et agréable.
L'exposition Annoncer la couleur, c'est au musée de l'hôpital Saint-Roch à Issoudun et c'est jusqu'au 12 mai. Dialogue inattendu, c'est au musée Marmottan à Paris. Plusieurs de vos tableaux en regard, des tableaux de Pissarro, Caillebotte et Monet au musée Marmottan jusqu'au 29 septembre. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir, au son, c'était Jordan Fuentes, Lise-Marie Barré à la réalisation. Merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Kevauvillier et Valentin Rémy qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. Let's sing the way through. How about a new way to pray? Too much pressure on your back. Fever's how and you pay back. But freedom is here to come, and hope seems to hang. Let's sing the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way? How about a new way to pray?
hard to let them go. You belong to somewhere for some reason, 'cause hope seems to hang on. Let's dance the way through.